20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On ne l'attendait pas, on ne l'attendait plus. Et c'est une belle découverte. Ni sortie de terre ou extraite des sables, mais surgit des presses d'une imprimerie. La surprise est un apax, un monstrueux artefact, un livre rouge, le grand livre rouge de l'archéologie. Depuis 72 heures, date de sa création, une nanopoussière dans nos 7 millions d'années d'humanité, une histoire universelle des civilisations est enfin à notre disposition. Œuvre d'archéologues regroupés dans une approche globale pour mieux rendre compte des trajectoires des sociétés passées. Une histoire des civilisations ou comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, tel sera le thème ce soir du magazine d'archéologie de France Culture. Pour en parler, deux des trois directeurs de cet ouvrage paru aux éditions La Découverte, Alain Schnapp, Dominique Garcia. Bonsoir.
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 Professeur à l'Université de Paris 1, ancien créateur et directeur de l'INHA. Alain Schnapp, vos terres sont les ruines, dont celles de la Grèce. Professeur à l'Université d'Aix-Marseille et l'Institut universitaire de France, Dominique Garcia, vous gérez la destinée du plus grand institut d'archéologie au monde, l'INRAP, dont vous êtes aujourd'hui le président. Ce livre, vous l'avez pensé, créé, avec Jean-Paul Demoule, habitué de l'émission. Quoi qu'il en soit, une histoire des civilisations, ne serait-ce pas tout simplement une double provocation de la part des archéologues ?
Provoquer pas du tout, non, juste tenir la main du lecteur passionné par l'histoire, justement, et lui démontrer que la documentation archéologique constitue des archives issues du sol, mais des archives vivantes qui permettent justement d'écrire une histoire. On n'a pas voulu effectivement séparer la préhistoire et l'histoire, mais écrire sur la longue durée une histoire de ces civilisations.
Alain Schnapp.
Oui, c'est entendre que quand l'homme se révèle en tant que tel, on est déjà dans un processus de civilisation. D'une certaine façon, Vico disait, l'humanité, c'est ce qui vient de l'humus, de la terre. Et les grandes philosophies ou les grandes religions disent toujours, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc l'humanité, c'est la prise de conscience qu'un lien nous lie au passé. Non pas à une terre bien déterminée, non pas à un lopin qu'on va défendre le couteau dans les dents, mais à l'idée d'une appartenance dans la longue durée. Et c'est cette appartenance que nous essayons de mettre en relation avec les civilisations mieux connues pour illustrer celles qui le sont moins.
Justement, cette science historique, l'archéologie serait désormais une science capable d'appréhender non seulement le passé, mais l'histoire du monde ?
On a voulu effectivement réfléchir à l'échelle de l'histoire du monde, de l'ensemble des documents, de l'apparition des premiers hommes jusqu'à la période contemporaine, mais également la connexion entre ces espaces-là. C'est-à-dire on aborde aussi l'espace maritime, la notion de réseau, la notion d'échange, à la limite des premières présences humaines en Afrique jusqu'à l'espace mondialisé, globalisé actuel.
Chaque lecteur se forgera bien sûr son opinion. Toutefois, voici 40 ans, seule une encyclopédie avait osé l'entreprise, Alain Schnapp.
Oui, enfin, en fait deux. Il y a premièrement l'encyclopédie de l'archéologie de Cambridge qui avait été développée par nos collègues, qui a joué un rôle très très important dans son approche universaliste. Et puis l'encyclopédia universalis qui avait été organisée par Madame Flon-Granvaux et qui est restée un document de extrêmement utile pour avoir une vue planétaire ou mondiale de l'archéologie.
En tout cas, qu'est-ce qu'une civilisation pour un archéologue ?
Non, on a bien entendu la définition classique, celle qui est liée à la ville. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est que justement, la civilisation classique, la ville, l'urbanité, n'est pas née de rien. Et donc, on a voulu peut-être prendre le contre-pied et suivre le premier homme en Afrique, jusqu'ensuite sa prospérité sur l'ensemble des continents. Et appréhender que chaque étape dans le temps, chaque rencontre, chaque culture développée à une échelle locale ou à une échelle plus large, était en fait une image des civilisations anciennes présentes.
Vous assumez sans complexe la notion de civilisation là où les historiens et voire même les archéologues auraient dit les sociétés ?
On l'assume en tant qu'historien sur l'ensemble de la durée, en la nourrissant d'une approche qui est effectivement celle des sources écrites pour les civilisations classiques et celle de la documentation matérielle pour les civilisations non classiques.
Une chose est sûre, à vous lire, on a le sentiment que ces civilisations se sont formées dans la diversité.
Par définition, bien entendu, c'est comme ça que les archéologues les reconnaissent, par la diversité de leur culture, de l'organisation, par les rapports qu'elles ont à l'espace, par la définition des territoires, par le regroupement de ces territoires sous forme d'État ou d'empire, jusqu'à des périodes plus récentes où ces empires ont pu être disloqués.
Prenons quelques exemples.
Alors, les exemples seraient à l'échelle, mettons, de la Méditerranée, la rencontre entre les sociétés étrusques, grecques, romaines et les populations locales sur les rives sud ou nord de la Méditerranée qui, par ces rencontres, ont fait émerger de nouvelles cultures, la culture punique, la culture ibérique, la culture gauloise ou celtique. Et donc, en fin de compte, c'est d'essayer de réfléchir comme ça sur l'émergence de ces sociétés, c'est la manière dont sont forgées les cultures et comment nous, archéologues aujourd'hui, nous arrivons à les définir.
Alain Stapp, d'autres exemples pour les auditeurs ?
Oui, on pourrait, à l'échelle globale, la colonisation de l'Amérique et les questions qu'elle pose de plus en plus complexes, vu les capacités d'observation qui sont les nôtres, est une question majeure de rencontre entre différents types de sociétés et différents types de paysages, mais aussi les hommes à la conquête du plus grand océan du monde, c'est les extraordinaires entreprises des Océaniens qui, en quelques siècles, passent d'un bout à l'autre de l'immense océan, le plus grand du monde, que Eric Comte explique très bien dans notre livre, sont des passages qui n'étaient pas si connus jusque-là. Et donc, nous cherchons la base matérielle des sociétés, c'est le travail de l'archéologue, mais nous ne refusons pas l'interprétation historique, au contraire, on tâche de nourrir, comme l'école des annales nous y avait appelé depuis 1929, l'histoire des ressources de l'archéologie.
7 millions d'années de nos origines les plus lointaines à notre univers mondialisé, vous percevez 4 trajectoires qui séquencent cet énorme volume. Quels sont-ils ?
On a pris, effectivement, il fallait quand même essayer d'établir des cadres qui sont socio-économiques. Donc le premier, c'est celui des sociétés des chasseurs-cueilleurs, donc des premiers hominidés en Afrique jusqu'à les deux sorties d'Afrique à partir de 2 millions d'années. Ensuite, on évoque une deuxième grande partie qui est celle des sociétés d'agriculteurs et donc le développement de la domestication des plantes et des animaux à travers le monde, des périodes extrêmement anciennes jusqu'à des phénomènes plus récents sur certains continents. La troisième étape, c'est celui de l'émergence de l'État dans ces sociétés, à partir notamment de la Mésopotamie. Et la quatrième étape que nous pointons, c'est celle des empires jusqu'à des périodes plus récentes, donc de la mondialisation.
Tiens, pour une fois, ce n'est pas l'apparition de l'écriture qui est la grande césure de l'histoire de l'humanité ? Alain Stapp ?
Évidemment, l'écriture contribue à créer des sociétés qui ont des capacités de stockage d'informations et de remémoration qui ne sont pas imaginables avec les techniques de la mémoire. Même si ces techniques de la mémoire humaine, transmises d'une génération à l'autre, sont au fil du temps extrêmement efficaces. Mais l'idée, de même qu'il y a eu une décolonisation des esprits, est de tenter une décolonisation de l'archéologie qui naît d'un mot grec, hein, archaios, ce qui est ancien, et logos, le discours sur les antiquités, on a longtemps pensé, à travers nos sources gréco-romaines, que c'était une affaire purement occidentale. Mais nous voyons que c'est une affaire amérindienne, que c'est une affaire océanienne, que c'est une affaire chinoise. Donc c'est dans ce contexte que, sans rien laisser perdre de notre rapport aux civilisations antiques de la Méditerranée, nous avons tenté de voir en amont et de donner une place à la préhistoire qui corresponde à la façon dont elle a structuré le rapport des hommes entre eux, et d'autre part, de considérer le petit lac de grenouilles dont parlaient les anciens, qu'est la Méditerranée, avec tous les océans, et de voir comment les sociétés interagissaient. Et là, au fil des articles, on verra qu'il y a des contacts très anciens entre l'Asie lointaine et l'Europe, entre l'Afrique et l'Europe. L'Afrique semblait un continent un peu oublié, un peu en retrait. Et si vous lisez la contribution de François-Xavier Fauvel, vous verrez que grâce à l'archéologie, grâce à une histoire ethnographique, eh bien, on peut parler d'histoire là où encore il y a 30 ans ou 40 ans, ça semblait difficile.
Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une archéologie qui est totalement en train de se faire.
C'est une archéologie qui se fait, qui se renouvelle, dont les objets évoluaient à travers le temps, effectivement en s'appuyant sur les quatre grandes étapes qui ont fait évoluer l'archéologie ces dernières décennies, c'est-à-dire des innovations techniques que l'on voit sur les chantiers de fouilles, dans les laboratoires, et parfois sur des chantiers qui sont devenus des laboratoires. Le deuxième point, c'est l'extension des terrains d'études. Pendant longtemps, l'archéologue a travaillé sur un site, un bâtiment, une ville. Aujourd'hui, l'archéologie est aussi une archéologie intersite, ce que nous a permis de nourrir l'archéologie préventive. On travaille sur des grands linéaires et donc les terroirs, les paysages sont devenus aussi des objets d'étude, comme le sont devenus les océans. Le troisième point, c'est l'augmentation sans doute du nombre d'objets étudiés par les archéologues, des murs, des statues, des ruines qu'évoquerait Alain Schnapp. Il y a aujourd'hui les écofacts, les pollens et autres qui permettent de nourrir un peut là aussi décrire de nouvelles pages. Et enfin, l'élargissement des périodes, là où l'archéologie était justement compléter les informations des historiens ou travailler sur les périodes anciennes. Aujourd'hui, l'archéologie permet de nourrir une histoire de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la période moderne, voire de la période contemporaine.
Ce qui est intéressant au travers de ce livre, moi je trouve que c'est la diffusion de l'information. Bien sûr, on a un savoir qui a été souvent accumulé, mais qui n'est pas toujours partagé.
Alors c'est aujourd'hui un élément essentiel. On fouille beaucoup. En France, c'est plusieurs milliers de sites qui sont explorés chaque année. Et ce qui est important, c'est bien entendu de diffuser l'information, de pouvoir nourrir, bien entendu, les ouvrages historiques. C'est ce que nous avons tenté ici, parce que l'archéologie n'a de sens que si les informations sont partagées.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Alain Schnapp, des milliers de chantiers en France, oui, on le sait, en Europe aussi, mais ailleurs, qu'en est-il exactement? Est-ce que l'archéologie a la place dans le monde qu'elle a en France et en Europe?
C'est inégal, mais elle est développée. On aura du mal, par exemple, à entendre que le pays qui a le ratio le plus élevé d'archéologues par habitant, c'est le Japon. Que des pays comme les anciens pays de l'Est ont bénéficié d'une aide publique à l'archéologie qui fait que leur surface et leur paysage sont extrêmement bien connus, même si, après la chute du mur de Berlin, un certain nombre de pays se sont trouvés en difficulté pour maintenir leur appareil d'observation. Mais d'autres pays sont entrés dans la danse, évidemment les Chinois, même si encore aujourd'hui il n'y a pas énormément d'archéologues en Chine par rapport à la population. Les instituts de l'Académie des sciences ou les musées régionaux font un travail extraordinaire qui va complètement changer notre définition de la préhistoire et de la proto-histoire et de l'histoire chinoise. Mais on pourrait continuer en Amérique. Un des pays, paradoxalement, les mieux gérés en matière d'archéologie, c'est le Mexique. Je dis paradoxalement parce que le Mexique souffre de tant de plaies sociales et politiques que c'est navrant, mais pour y avoir séjourné, il est fascinant de voir comment l'Institut d'anthropologie, qui a des filiales dans tous les États du Mexique exploite et défend les sites archéologiques. Donc, il faudrait faire une démographie des archéologues. Elle n'a jamais vraiment été réalisée. Mais on peut dire à vue de nez que, au lendemain de la guerre, s'il y avait 2000 archéologues en activité professionnelle dans le monde, c'était bien le maximum. Aujourd'hui, nous serions 15 000, 20 000, peut-être 25 000. J'entends par archéologue non seulement les archéologues de métier, mais les professions qui contribuent à l'archéologie. Donc dans un pays comme la France, dans les années 60, il y avait à peine sur le territoire national musées, universités, services archéologiques, 400-300 personnes. Aujourd'hui, le seul INRAP a plus de 2000 collaborateurs et il y en a à peu près un autre millier dans la fonction publique et dans un certain nombre de sociétés qui concourent à l'archéologie. Donc la nécessité de l'archéologie a été reconnue. Et ça, c'est un combat qui a été mené par notre génération. Déjà, Henri Seyrig, qui a été le grand homme de l'archéologie au Proche-Orient, l'archéologie classique en France, en gros, entre 1930 et 1960.
On en parlait récemment dans l'émission.
Voilà, Henri Seyrig pensait qu'il fallait nous doter d'un outil de vigilance archéologique qui couvrait tout le territoire national et aussi toutes les missions archéologiques françaises à l'étranger.
Dominique Garcia, l'archéologie définit des faits matériels. Elle plonge donc dans les sources et cela parfois contre les idéologies.
Contre les idéologies, non. En fin de compte, on essaie de nourrir une autre approche, effectivement, des sociétés. L'archéologie a permis de compléter les informations historiques. Et là aussi, Alain l'évoquait tout à l'heure pour les anciens pays de l'Est, une archéologie qui permettait de renforcer une certaine image, de construire une histoire. Là, aujourd'hui, peut-être on est libéré de cette forme-là, peut-être pour être asservi par d'autres, mais en tout cas, on essaie peut-être de partir de la documentation pour bâtir des approches qui sont culturelles, économiques ou sociales, plutôt que de nourrir un discours historique déjà écrit.
En tout cas, l'histoire, c'est bien sûr la façon dont une société se raconte. Pourquoi sommes-nous en France si peu en paix avec notre passé, alors que d'autres le sont parfaitement ?
C'est peut-être parce que nous sommes un Finistère et que donc les grandes vagues démographiques qui commencent en Asie se terminent toujours quelque part entre la Bretagne et les îles britanniques. Et donc les successions de populations qui ont balayé le territoire qui s'appelle aujourd'hui la France ont fait que depuis le Paléolithique jusqu'à aujourd'hui, il y a eu mélange, substitution, réorganisation. Je veux dire, il y a une telle diversité dans les peuplements que l'archéologie offre à ceux qui veulent y trouver des arguments pour mieux penser leurs racines. Eh bien, si leur question est ainsi posée, ils n'auront pas de réponse. L'archéologie donne des réponses diverses. Qui sont les Gaulois par rapport aux Celtes en général, les Celtes par rapport aux Germains, question aussi ancienne que l'histoire de France, mais qui commence chez nous avec les grands légistes des rois de France, avec au XIIIe, XIVe siècle, la volonté d'écrire un récit qui, à l'échelle de cette grande puissance montante, qui est le royaume de France, et qui va trouver sa place à la Renaissance, dans une histoire comparée dans laquelle les premiers historiens seront aussi des antiquaires. Par exemple, la fracture qui aujourd'hui n'est plus visible dans la société française entre culture catholique et culture protestante est très visible dans l'histoire parce que les protestants sont gallophiles, les catholiques beaucoup moins. Et les protestants sont gallophiles peut-être parce que ils veulent expliquer que la Gaule ancienne dans la diversité de ces tribus, elle était plus généreuse à l'égard des minoritaires que la grande France centralisée.
Dominique Garcia, vous nous disiez tout à l'heure que ce travail est né d'une révolution silencieuse liée au progrès technique et technologique de l'archéologie. N'est-ce que ce progrès technique qui a fait avancer la discipline ? Les approches n'ont pas, elles aussi, changé ?
Bien entendu. Les objets, je disais tout à l'heure que la variété des objets étudiés par les archéologues était aujourd'hui très important, mais aussi l'objet de l'archéologie a évolué. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait de l'archéologie, on étudie les génomes, on étudie étudie les climats. Et donc, en fin de compte, on a une approche beaucoup plus large. Et c'est un élément qui me semble important. On étudie les territoires, on étudie les sociétés, on étudie leur organisation. Et donc, on va au-delà de ce qui peut être exposé dans un musée.
Alain Sharp, on émet aussi des modèles.
On émet des modèles et inutile de rappeler la mémoire ici de, on parlait de Céric, de Jean-Claude Gardin, qui a été un des archéologues de la génération précédente, qui a envisagé d'abord les révolutions technologiques de l'archéologie, dans sa façon de considérer l'archéologie de l'Asie centrale, de s'intéresser justement aux écofacts, et puis d'essayer de valider. Gardin, qui était un très bon écrivain, avait une haute estime de la langue, mais il trouvait que le langage des archéologues n'était pas rigoureux. Il a passé sa vie à tenter de nous apprendre à créer des systèmes documentaires, à en quelque sorte organiser le matériau archéologique d'une façon lisible et surtout transmissible. Et c'est ça un peu une des leçons des documentations modernes. Les technologies avancent à grands pas, il faut que la documentation soit accessible. Si vous allez dans le meilleur service archéologique du monde, qui est le service créé au XVIIe siècle, en Suède, vous pouvez aujourd'hui trouver encore des documents de médiévaux ou des documents du XVIIe siècle relatifs à certains sites et faire l'histoire d'un site depuis les premières observations consignées par écrit jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est évidemment pas possible dans des pays comme la France, pour mille raisons qu'on pourrait souligner, parce qu'elles n'ont pas eu. Les historiens royaux en France ne sont jamais devenus des antiquaires. Et donc la France de Louis XIV, ou avant celle de François Ier, ou celle de Louis XVI, envoyait des missions dans le monde entier, mais quand le comte de Caylus, proche de la famille royale, essaye de protéger les antiquités de la France, il doit gagner la complicité des ingénieurs des ponts, des ingénieurs royaux. Mais il n'y a pas de moyens spécifiques mis à sa disposition, alors qu'en Scandinavie, à cette époque-là, il y a déjà un bureau central des antiquités au Danemark, en Suède. Ça explique peut-être ceci, et ma dernière réflexion serait que la France a un problème avec les antiquités, autant les monuments que les objets, parce qu'il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs. Et donc ce trop-plein a été difficile à gérer.
Les rois mésopotamiens, les empires chinois se sont lancés dans ces antiquités très tôt.
Très tôt.
Et ont même réutilisé ces objets archéologiques en leur propre nom.
Absolument. Donc on a l'impression que l'archéologie est une science jeune, elle est née vers 1830, 1860, quand on unifie ensemble l'ensemble des pratiques qui concernent l'observation matérielle du passé en une discipline avec un certain nombre de règles, la stratigraphie, l'histoire des techniques, la typologie. Dans le passé, il y avait des typologues. Dans la Chine des Song au XIe siècle, on savait très bien dater des vases de bronze qui remontaient à un millénaire auparavant. On savait fouiller, on savait même non seulement fouiller, mais produire des rapports de fouilles. Les Mésopotamiens ne concevaient leur pouvoir qu'enraciné dans le passé.
Nabonide. Le roi Nabonide de Babylone.
Notre ami Jean-Louis Huot, dont nous avons, toi et moi, été l'élève, a découvert à Larsa une brique de fondation de ce roi, le dernier roi de Babylone, au VIe siècle, qui explique qu'il fait fouiller des temples pour retrouver leurs traces, de façon à refonder son pouvoir et ses convictions religieuses.
Alain Sharp, pour comprendre le futur, sans nul doute, faut-il se retourner vers le passé ?
Absolument. Donc ça, c'est la stratégie mésopotamienne. Donc j'expliquais cela en disant que les Mésopotamiens ont une telle puissance culturelle depuis les premiers rois sumériens derrière eux qu'ils regardent d'abord le passé pour regarder se retourner vers le futur. Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait des sociétés traditionnelles en Colombie, par exemple, qui utilisaient la même formule, alors qu'eux n'ont que très peu de matière, mais ils ont de la mémoire orale.
Et c'est le cas aussi des Polynésiens, au travers du Moa et du Moï, bien sûr, une notion très contestée par le pouvoir. Évoquons les chefferies pré-étatiques, voire l'État. D'ailleurs, peut-on parler d'État en archéologie, Dominique Garcia ?
Nous en parlons.
L'État, pour les historiens, ça commence pas cette période-là.
En tant qu'historien, on arrive effectivement à dater l'apparition de l'État au quatrième millénaire, quand en fin de compte, les sociétés ne vont plus être liées directement par des liens familiaux, par des lignages, mais quand effectivement un pouvoir politique va structurer cette société et quand les groupes ne vont pas vivre uniquement sur leur terroir, mais aussi dans le cadre d'un territoire défini, vont entretenir des liens commerciaux avec d'autres populations. Et donc cet état-là, on essaie d'en trouver des signes qui sont effectivement l'accumulation de richesses, la mise en place de l'écriture pour la comptabilité, la mise en place de la monnaie pour faire des échanges, et bien entendu l'exercice d'une sorte de violence légitimée, soit une police pour les populations dans derrière du territoire, soit l'armée pour défendre justement ses acquis à l'extérieur du territoire.
Comment naissent et meurent les civilisations? Les archéologues ne voient plus aujourd'hui ces trois phases, l'émergence, l'apogée, le déclin et l'effondrement, le fameux collapse notamment décrit par Jared Diamond.
Alors, on ne cherche pas effectivement systématiquement l'origine et puis ensuite la fin, mais essayer de voir justement comment elles ont évolué. Il n'y a pas pour les civilisations comme pour les peuples des entités qui sont figées, mais bien des entités qui évoluent à travers le temps.
On est plus dans la mutation, la transformation. Les Mayas n'ont jamais disparu.
Non, ils ont vécu les vicissitudes que nous connaissons. Nous pouvons maintenant recomposer les aires qu'ils occupaient. Mais le Maya est encore parlé, des sociétés traditionnelles persistent, alors que la société étatique ou para-étatique qu'ils avaient créée s'est effondrée pour des raisons que nous cherchons à investiguer. Nous avançons, mais les clés ne sont pas là. On dit souvent à l'archéologue, y a-t-il encore des choses à trouver? Et la réponse, par définition, oui. Ce que nous connaissons n'est qu'une part infinitésimale de ce qui est de l'ordre de la connaissance. Et nous, les archéologues, nous arrivons à la connaissance quand des petits hublots s'ouvrent, parce qu'il y a une fouille préventive, parce qu'il y a une fouille organisée dans un certain endroit. Mais nous ne pouvons pas observer la totalité.
Alain Schnapp, qu'est-ce qu'aujourd'hui notre civilisation?
Ça, c'est une question à laquelle un archéologue ne peut pas répondre. Mais l'archéologue peut répondre en disant, si nous nous posons la question, y aura-t-il une fin de notre civilisation un jour? Nous répondons évidemment oui. Est-ce que nous sommes en face de crises majeures? Et nous disons oui, nous sommes devant des crises qui ressemblent à celles qui ont affaibli de grandes civilisations dans le passé, le moment où le consensus ne règne pas forcément, où des situations de violence endémique persistent sans qu'on soit capable de les arrêter, où l'exploitation par les sociétés les plus riches des biens des sociétés les plus pauvres ou des ressources des sociétés les plus pauvres est tous les jours plus lisible. C'est vrai que dans le métabolisme de notre civilisation occidentale contemporaine, il y a des nuages. Est-ce que ces nuages vont pouvoir être éloignés? Ben, c'est un peu une question à laquelle chacun est libre de répondre en puisant les informations où il le souhaite. Mais ce que nous dit l'archéologie, c'est qu'elle confirme l'idée de Valéry, qu'on a un peu galvaudé, que les civilisations sont mortelles. L'archéologie, elle énonce que les civilisations ou les sociétés sont des équilibres, par définition, instables, dont la survie n'est pas toujours assurée.
Dominique Garcia, Alain Schnapp, merci. Je rappelle le titre de ce grand livre rouge de l'archéologie, Histoire des civilisations ou comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Pour prolonger notre soirée archéologique, retrouvez ce soir Sapiens Recherche Néandertal dans l'émission Créationnaire où Néandertal, comme on ne l'a jamais entendu. Franck Bessière et Nathalie Battus vous proposent un beau voyage sonore, une fiction vieille de plus de 50 000 ans au cœur du Haut-Verdon. Sapiens Recherche Néandertal, c'est ce soir.
On suppose qu'ils sont venus s'installer là vraiment pour la taille du silex. Même s'il faisait froid, l'été, il devait avoir une saison assez intéressante pour lui, où c'est qu'il y avait une explosion de fruits et la chasse en même temps, parce qu'il y avait des pâturages pour les animaux. Et en plus, on est sur des secteurs où c'est que le silex est en abondance. C'est pas des grosses carrières, mais tout est ramassable très facilement.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Alain Joubert et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place à la romanité, la romanitas, valeur éternelle et fasciste. Aujourd'hui, sur le devant de la scène et le front d'un grand musée.